compter, compter, peser et diviser. Daniel chapitre 5, les versets 5 à 31. Comme les dernières semaines, je ne ferai pas la lecture du texte avant le message, mais tout au long de celui-ci, nous avons vu la semaine dernière les versets 1 à 4, comment est-ce que le roi Belshazzar, donc alors que Babylone est assiégé par les Mèdes et les Perses, enfin alors que ceux-ci avancent au sein du royaume, décide de donner un grand festin où il invite 1000 de ses grands, dans lequel on devait probablement retrouver même des chefs militaires. Et là, on est festoyé, et dans le monde païen, ça voulait dire aussi la débauche, etc., etc. Et tout à coup, alors qu'on était pris sous l'effet de l'alcool, il fait venir les ustensiles et les vases d'or. On peut ajouter d'argent aussi de la maison de l'Éternel, que son père, en fait son aïeul, avait fait venir Nebuchadnezzar de Jérusalem, lorsqu'il avait, les a fait sortir du temple de Jérusalem, les avait mis dans la maison de son Dieu. Mais maintenant, Belshazzar fait venir cela et il les profane littéralement. Il donne ça à ses grands, à ses femmes, ses concubines qui boivent là-dedans en louant leur Dieu. Et je pense vraiment que l'idée était qu'il voulait braver, comme avait essayé son aïeul, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, quelques reprises, il a voulu braver le Dieu d'Israël, parce que le Dieu d'Israël s'était révélé à Babylone, par l'entremise du petit reste, Daniel notamment et ses amis, pour leur dire que cet empire allait passer, qu'il ne durerait pas toujours. Il y a eu des avertissements. Nebuchadnezzar, lui aussi, vers la fin de son règne, a été profondément humilié. Il s'est humilié, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais assez, n'est-ce pas, pour qu'il promulgue un édit dans tout son royaume. Donc, tous étaient au courant de cela, disant qu'il n'y avait que le Dieu de Daniel, que le Dieu des Juifs était le Dieu suprême, à qui revient toute autorité. Et il élève qui il veut, il abaisse qui il veut, selon sa volonté, et que rien n'y peut, et qu'aucun homme ne peut s'élever contre cela. Quoi qu'il en soit, alors que le royaume de Babylone est menacé, et je rappelle que, de toute évidence, Belshazzar ainsi que ses nobles étaient persuadés que Babylone ne tomberait pas. Et ça, c'est une constante qu'on voit chez les prophètes lorsqu'il est question de Babylone. Babylone orgueilleuse, Babylone qui dit qu'elle ne sera jamais veuve, qu'elle va demeurer à toujours. Mais la nuit même de ce festin-là, Babylone va tomber. Donc, alors qu'ils sont en train de festoyer, alors qu'ils sont en train de littéralement de blasphémer le nom du véritable Dieu, les versets 5 et 6 nous disent ceci. « En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. » Un sinistre signe. Premier point ce matin, versets 5 et 6, un sinistre signe. On est dans la joie, on célèbre, on blasphème le nom de Dieu, et puis arrive ce phénomène surnaturel. Alors que Belshazzar, ses convives, profanent les ustensiles et les vases de la maison du Dieu d'Israël, tout en louant leur divinité, ils sont témoins d'une manifestation surnaturelle qui met fin abruptement à leur réjouissance. Stuart Olliott commente la scène en ces termes. Il nous dit ceci. « Nous pouvons imaginer les rires et l'écho des réjouissances. L'hilarité et la débauche sont à leur comble. Des voix avinées font monter des chants ignobles à la gloire des divinités païennes. Le péché s'étale sans honte et se glorifie des joies qu'il procure. L'impiété ne connaît plus de bornes et rien n'entrave sa progression immonde. Soudain, un silence de mort s'abat sur l'assemblée, pétrifiée. C'est ainsi qu'en quelques secondes, Dieu retourne une situation. En un clin d'œil, toute l'arrogance royale a disparu. Dieu a pris note de toutes les pensées, paroles et actions du roi. Il l'attend maintenant pour lui demander des comptes. » La table où se trouve le roi est située sur une estrade, selon ce qu'on a découvert, les recherches archéologiques, n'est-ce pas? Elle est éclairée par un grand candélabre, nous est-il dit ici, peut-être même plusieurs, mais il est fait référence ici au candélabre, en fait le chandelier, un candélabre, pour le moins un très grand chandelier. Et tel que le rapporte le texte biblique, comme je disais, les découvertes archéologiques, justement, ont révélé que le mur à l'arrière de l'estrade était recouvert de plâtre blanc. C'est à cet endroit que convergent maintenant tous les yeux horrifiés des hommes et des femmes présents dans la grande salle. Ils regardent impuissants, non pas une main, mais les doigts d'une main, qui est apparue de nulle part et qui écrit, en train d'écrire quelque chose sur la muraille. Alors, Belshazzar est terrifié, nous est-il dit. Il est envahi par la panique. La peur fait changer de couleur son visage qui devient livide. Il est si remué intérieurement que sa vessie se vide et que ses genoux se cognent l'un contre l'autre. On sait ce que ça veut dire. Tellement il a peur. Deuxième point, l'inefficacité des sages de Babylone, ce qu'on a déjà vu dans les premiers chapitres du livre de Daniel, les versets 7 à 12. Donc, l'extrémité d'une main est apparue, les doigts d'une main sont apparus. On écrit quelque chose sur le mur derrière l'estrade où se trouvait le roi, donc en fait la table royale, et tout le monde s'arrête. Le festin, le party est terminé. Le roi, lui, est dans une angoisse extraordinaire, même son visage a changé de couleur. Versets 7 à 12, « Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur, ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Et il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. » Donc, affolé, le roi crie littéralement pour qu'on fasse venir tous les sages de Babylone, donc les astrologues, les devins, les chaldéens, etc., etc. Et il leur promet donc de les récompenser richement. En plus de il promet à ceux qui vont pouvoir lui donner, ou celui ou ceux qui vont pouvoir lui donner l'interprétation donc des mots qui sont inscrits sur le mur, il leur promet donc une riche récompense ainsi que d'être promis au troisième rang dans le gouvernement du royaume. On a vu la raison de cela puisqu'il était roi en second après Nabonide, son père. Néanmoins, malgré l'offre, aucun de ces sages ne peut répondre, comme ce fut le cas à l'époque de Nebuchadnezzar. Et à la demande, donc personne n'a pu répondre à la demande de Belshazzar, ce qui n'a fait qu'attiser l'effroi de ce dernier et le jeter dans une plus grande consternation, continuer à troubler, bien sûr, tous les invités qui étaient présents. C'est alors, nous dit notre texte, qu'entre la reine. Qui est cette reine? On sait que ce n'est pas l'épouse de Belshazzar, puisque ses femmes, ses concubines, étaient présentes dans la salle. On ne sait pas qui elle est exactement. De toute évidence, elle a connu l'époque de Nebuchadnezzar. On pense qu'elle serait peut-être l'épouse de Nabonide, donc la mère même de Belshazzar. On n'est pas certain de cela, d'autres remontent peut-être un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, ce qu'on sait, c'est que les reines-mères à cette époque, à Babylone, c'est vrai dans d'autres royaumes aussi, possédaient un certain prestige. Et je pense que même l'événement même, ce qui est en train de se passer, même lui a permis justement d'entrer sans prévenir pour venir voir le roi. Mais en tant que telle, les reines-mères possédaient un certain prestige. Alors, elle se permet d'entrer ainsi dans la présence du roi et elle lui rappelle donc que, je dis bien, elle lui rappelle, parce qu'il était au courant de cela, mais ça avait été mis de côté. Nous sommes à une nouvelle époque. Hein? On s'est renouvelé, on s'est modernisé. On a mis de côté le passé, mais elle lui rappelle que du temps de son père, donc Nebuchadnezzar, on avait trouvé au sein du royaume un homme nommé Daniel, un captif de Juda. Cet homme, dit-elle, il possède la capacité surnaturelle d'interpréter les songes, de résoudre les énigmes les plus obscures qui soient, et cela parce qu'il a en lui l'esprit des dieux saints. Alors, elle reconnaît ce don particulier de Daniel, mais bien sûr, elle s'exprime toujours, comme le faisait Nebuchadnezzar, à la manière des païens. Au lieu de parler du Dieu suprême, on parle des dieux saints. Et en raison donc de cette science extraordinaire que possédait Daniel, Nebuchadnezzar l'avait élevé au rang de chef suprême de ses sages. Aussi, la reine conseille-t-elle à Belshazzar de faire venir cet homme, étant assuré qu'il saura expliquer les mots écrits sur le mur. Donc, l'inefficacité, encore une fois, des sages de Babylone, de la sagesse de ce monde face au conseil de Dieu, face à la parole de Dieu, hein, à pouvoir saisir donc la parole du Seigneur. Troisième point, Daniel appelé pour résoudre l'énigme. On doit faire appel à un serviteur de Dieu. Versets 13 à 17. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, je lui en donnerai l'explication. » Donc, Belshazzar se doit de reconnaître devant Daniel que ses sages, que ses astrologues sont incapables de lire et de déchiffrer ce qui a été écrit sur le mur. On n'est pas capable, on ne comprend pas très très bien la question de pouvoir ne pas pouvoir lire. Il semble bien vraiment que leurs yeux sont comme fermés. Les mots sont là, enfin c'est de l'araméen, mais ils ne semblent pas être capables de les saisir, encore moins bien sûr. Mais même s'ils avaient été capables de lire les mots comme il se doit, ils n'auraient pas été capables de les interpréter, ça c'est sûr et certain. Alors, il demande à Daniel de le faire. Certains même y voient ici plus un ordre qu'autre chose, peut-être une forme de mépris. Mais il lui offre aussi de grands présents et la troisième place au sein du royaume, s'il peut répondre à cette demande. Daniel, homme de Dieu, alors âgé de plus de 80 ans, refuse dans un premier temps de recevoir quoi que ce soit en échange de ce qu'il va révéler. La parole de Dieu ne se moyenne pas. Daniel n'est pas comme ses enchanteurs, ses devins ou ses chaldéens qui s'enrichissent en échange de leurs services. Ainsi en devrait-il être de tout prédicateur de la parole et de tout serviteur de Dieu, de tout frère et toute sœur dans l'Église du Seigneur. Il n'est pas de la race de Balaam. On sait c'est qui Balaam? Le devin que Balak avait fait venir, le roi de Moab avait fait venir en lui demandant de maudire le peuple d'Israël qui s'avançait pour conquérir la terre promise. Et Balaam, justement, dans un premier temps, Dieu lui a dit, « Tu n'iras point. » Alors, il a dit aux envoyés du roi, « Je n'irai point. » Mais ils sont revenus à nouveau. Et bien sûr, ils avaient promis, en fait, le roi avait promis à Balaam de très grandes récompenses. Dans un deuxième temps, Dieu dit à Balaam, « Vas-y. » C'est un peu spécial. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Dieu n'a pas changé d'avis, mais il sait que Balaam brûle dans son cœur face à l'argent, face au prestige. Il n'est pas d'accord qu'il y ait, mais il lui dit, « Mais tu diras ce que je vais mettre dans ta bouche. » Et on connaît l'histoire, même à quel point il a failli mourir, parce que si l'ânesse ne s'était pas arrêtée sur le chemin, l'ange de l'Éternel aurait tué Balaam. Hein, tous les avertissements, mais rien n'y fait. Balaam se rend. Bon, Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, mais nous apprenons par la suite qu'il a suggéré donc à Balak d'envoyer des femmes vers l'Israélite afin qu'elles les séduisent. Et qu'ainsi, elles puissent les amener à adorer leur propre Dieu, à se mélanger le syncrétisme. Alors, pourquoi est-ce que Balaam a fait cela? Il voulait le prestige, il voulait le salaire. Prêt à mettre de côté la parole de Dieu, à la trafiquer. Mais Daniel n'est pas un Balaam. Il ne marche pas sur la voie de l'égarement pour un salaire, comme nous le dit Jude au verset 11 de son épître. Daniel ne fait pas de la piété une source de gain, ce qui est malheureusement un fléau au sein de l'Église depuis des siècles. Daniel dispense droitement la révélation divine sans considération des individus. Son salaire, c'est d'être fidèle à Dieu, tout simplement. C'était là aussi l'attitude de l'apôtre Paul, Galates chapitre 1, les versets 10 à 12, lorsqu'il écrit donc aux assemblées de la Galatie. Nous lisons ceci. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Paul ne faisait qu'annoncer ce que Dieu lui avait donné. C'est ce que faisait aussi Daniel, sans considération des hommes. Il n'était pas là, Daniel n'était pas en recherche de retrouver son ancien prestige, mais je mets ça vraiment entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prestige pour Daniel d'avoir été élevé au rang de chef suprême des sages. Ça a dû lui causer énormément de tensions et de problèmes. Daniel aurait certainement préféré vivre dans le royaume de Juda. Il n'était pas en recherche de retrouver sa soi-disant place d'honneur. Daniel est en recherche de glorifier son Dieu, tout simplement. Daniel vivait à Babylone, servait à Babylone selon la volonté divine, mais il n'était pas de Babylone. Nous sommes dans le monde, nous servons notre Dieu selon son plan parfait, mais nous ne sommes pas du monde. En fait, Daniel vivait à l'ombre de son Dieu. De même, il nous est dit que notre vie est cachée en Christ. Lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons. Mais ici-bas, nous sommes méconnus. Daniel était méconnu. De toute évidence, il est certain que peut-être que l'âge a fait en sorte qu'on l'a mis de côté, mais il semble bien que c'est plus que cela. On l'a mis de côté parce qu'il dérangeait. Il dérangeait. Il avait dérangé, il continuait à déranger. Daniel était méprisé par l'ensemble de ceux qui l'entouraient en raison de sa foi en Dieu, de sa consécration à Dieu. Daniel était prêt à porter l'opprobre de Christ. Et puis Daniel était éclairé par la révélation divine, sa parole. Que disait cette révélation déjà un siècle et demi avant? Eh bien, Ésaïe avait annoncé non seulement que Juda serait vaincu par Babylone, mais que Babylone serait vaincue par les Mèdes et les Perses. Plus encore, tournez avec moi dans Ésaïe, au chapitre 44. Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 44. Verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Dieu dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Chapitre 45, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'il ne soit plus fermé. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. J'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Il n'était même pas encore né lorsque Ésaïe s'est exprimé par l'Esprit de Dieu de cette manière. Donc, Daniel savait que le roi qui avançait, en fait, il y avait Cyrus et Darius, mais il savait que c'était le roi annoncé par les Écritures, par Dieu lui-même. Et il savait, par le prophète Jérémie, un peu moins ancien, chapitre 25 de son livre, que Dieu avait décrété que la captivité de Jérusalem durerait 70 ans. Or, on arrivait au terme des 70 ans, sachant que les Mèdes et les Perses avançaient, Daniel savait très très bien que Dieu était sur le point de délivrer son peuple, de permettre la reconstruction de Jérusalem ainsi que du temps, de permettre que son peuple puisse revenir dans la terre promise. Frères et sœurs, c'est là toute la différence entre ceux du dehors et ceux du dedans. Nous avons, nous sommes au bénéfice d'une révélation extraordinaire, la parole de Dieu. Je vous invite à tourner aussi dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre à la lumière de cette révélation, notamment en ce qui concerne le retour de notre Seigneur. Afin de vivre en conformité avec cela, d'avoir nos yeux fixés sur ce retour, afin de nous rappeler que si nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus du monde. Si nous sommes dans Babylone, si nous vivons à Babylone, nous ne sommes pas de Babylone en tant que tel. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. L'apôtre décrit « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord avant vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Pousser, littéralement, le terme employé nous parle du vent qui pousse les voiles de navire. Les prophètes de l'Éternel, les prophètes de Dieu, les écrivains du Nouveau Testament ont été poussés par l'Esprit. Et Pierre nous dit que la parole prophétique est en fait la parole de Dieu elle-même. Eh bien, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. En ce moment, dans ce monde où les ténèbres règnent, nous avons cette lampe qui brille. Nous sommes appelés à l'ouvrir pour être éclairés par notre Dieu, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est le retour de Christ, quand la lumière va éclater dans ce monde. Amen. De même, Daniel gardait dans son cœur la parole prophétique, comme une lampe qui brillait au sein des ténèbres. Maintenant, l'explication, quatrième point, l'explication de l'inscription, versets 18 à 28. Donc Daniel était appelé, Daniel refuse les dons, les présents du roi, mais lui dit, je lirai néanmoins l'écriture au roi, je lui en donnerai l'explication. Versets 18 à 28, au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait, il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, sa demeure fut avec les ânes sauvages, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison étaient apportés devant toi, Et vous, vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Ça prenait du courage, hein? C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Je vous en passant, Daniel n'a jamais manqué de respect au roi, mais il a dispensé droitement la parole de Dieu. Donc, il rappelle Daniel à Belshazzar comment le Dieu suprême avait accordé à son père Nebuchadnezzar la domination sur le monde et l'avait élevé au plus haut point. Cependant, lorsque le cœur de Nebuchadnezzar se fut enflé d'orgueil, Dieu le frappa, l'humilia profondément jusqu'à ce que celui-ci reconnaisse que tout ce qu'il possédait venait de la main du Très-Haut, qui dispense parmi les hommes le règne à qui il lui plaît. Or, ajoute Daniel, Belshazzar était au fait de ces événements. Il en possédait une pleine connaissance, mais au lieu de suivre l'exemple de son père Nebuchadnezzar, c'est-à-dire de s'humilier lui aussi devant Dieu, il a au contraire blasphémé le nom de Dieu en profanant les ustensiles et les vases d'or et d'argent qui provenaient de sa maison. C'est en raison de cette grande impiété que Dieu a ainsi opéré le signe qui a bouleversé Belshazzar. Avec courage, comme je disais, en présence de la foule de dignitaires et de sages qui devaient tous être présents, Daniel dénonce ouvertement l'endurcissement de cœur volontaire de Belshazzar, qui n'a pas prêté oreille aux avertissements de Dieu, qui a cru dans sa folie pouvoir impunément défier celui-ci. En ce faisant, il dénonce toute l'assemblée présente. Il dénonce leur folie, il dénonce leur blasphème, leur arrogance. Le passage qu'on est en train d'étudier, frères et sœurs, nous rappelle que tout homme et toute femme dans ce monde est redevable devant Dieu de la connaissance qu'ils ont reçue de celui-ci et qu'ils en sont imputables. Que nous dit Romains chapitre 1, les versets 18 à 21? Vous pouvez tourner, c'est un texte extrêmement important qui nous parle de l'ensemble de l'humanité. Ça concerne donc tous les hommes, toutes les femmes qui vivent ici-bas, qui ont vécu, qui vivent et qui vivront jusqu'au retour de Christ. Paul nous explique ceci et nous dit dans Romains chapitre 1, verset 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et il est en train de nous dire donc, les hommes retiennent la vérité captive. Bien sûr, on parle de la vérité de Dieu. Et là, il explique, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils sont donc inexcusables, car ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié, c'est-à-dire ils ont refusé de le glorifier. Ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que l'humanité dans son ensemble, sans exception possible, possède par le moyen de la création elle-même assez de lumière pour être déclarée inexcusable. Littéralement, c'est sans apologie devant Dieu, sans plaidoyer possible au jour du jugement, sans argument de défense pour ne pas avoir cherché à mieux connaître ce Dieu qui s'est révélé à eux. L'humanité vit dans le mensonge, elle vit dans les ténèbres, de toutes sortes de religions, de philosophies, d'idéologies, non pas parce qu'il lui manque la connaissance, mais parce que l'humanité refuse. Bien sûr que ce n'est pas la connaissance de tout ce que nous avons dans les Écritures, mais ça nous dit qu'ils sont inexcusables, sans défense, sans plaidoyer possible, sans apologie. Paul de nous dire un peu plus loin au chapitre 3 de son épître aux Romains, j'en fais la lecture, le verset 10 à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est le CV, le curriculum vitae de l'humanité déchue, qui a rejeté Dieu. Or, si cela est vrai des hommes en général, qu'en est-il maintenant de ceux et de celles qui ont été ou qui sont au bénéfice d'une plus grande révélation? C'est-à-dire qui ont ou qui entendent le message, notamment aujourd'hui, de l'Évangile, mais qui refusent d'y répondre positivement, que ce soit en n'y prêtant pas attention ou en ayant faim de le faire, en disant « prêtez attention », le rejettent d'une manière ou d'une autre. Car ici, nous voyons que Babylone, le royaume de Babylone, ce soit, et ainsi que ses souverains, même s'ils n'avaient pas toute la connaissance, déjà en partant étaient inexcusables en raison de la connaissance naturelle qu'ils ont reçue. Mais en plus, Dieu s'est manifesté. Dieu les a interpellés puissamment. Et Belshazzar était au courant de ce que Dieu avait fait. Il avait entendu le témoignage de Nebuchadnezzar, mais il a tout rejeté cela, tout simplement. Le Seigneur Jésus a affirmé que nul individu en ce monde ne peut ni ne pourra au jour du jugement se soustraire à la redevabilité qui nous lie tous à cet égard. Il nous dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, les versets 47 à 48, ce qui suit. « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment et a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup donné. » Il faut faire très, très attention en lisant ce passage, parce que bien sûr, on est ici, quand il parle d'être battu de peu de coups, là, ce n'est pas dans le sens que le châtiment éternel sera léger en lui-même. Il nous dit juste ceci. Ceux qui auront plus reçu de connaissances et de révélations et qui auront fait fi de cela, seront châtiés encore plus sévèrement. D'accord? Toute personne en enfer va le regretter pour l'éternité. C'est dur à dire, hein, mais c'est la vérité des Écritures. Et ceux qui auront été éclairés d'une manière ou d'une autre plus que d'autres vont devoir subir le châtiment qui va de pair. Nous sommes tous imputables, redevables à ce que nous avons reçu de la part de Dieu. De même, il nous dit dans Marc, chapitre 4, les versets 24 et 25, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Prenez garde à ce que vous entendez. Ça veut dire, prenez garde non seulement à ce que vous entendez, mais prenez la peine de rechercher à comprendre cela. Ne rejetez pas ces choses, ne les laissez pas se perdre. Vous avez une redevabilité. Si Dieu s'adresse à vous d'une manière ou d'une autre, vous devez écouter et répondre positivement. Le message que Dieu maintenant envoie à Belshazzar, et en ce sens-là aussi à tout Babylone, c'est compter, compter, peser et diviser. Compter deux fois, bien sûr, ça veut dire que la chose est arrêtée. Il n'y a plus rien à faire. Dieu a compté les jours du règne corrompu du roi, et a décrété que leur terme était arrivé. Répétez deux fois pour dire, c'est terminé. Terminé. Comptez, comptez. Pesez. Dieu a pesé dans la balance de sa parfaite justice toutes les pensées et actions de Belshazzar, et celles-ci ne font pas le poids. Ne font pas pencher la balance en faveur du roi, bien au contraire. Divisé. Dieu a décidé de donner le royaume de Babylone aux Mèdes et aux Perses. Tout simplement. C'est le décret de Dieu, on ne peut plus revenir en arrière. Dieu annonce le châtiment, le jugement. Nombreux sont les commentateurs bibliques qui pensent que Belshazzar est ainsi frappé et jugé parce qu'il a commis un plus grand péché que ses prédécesseurs, notamment que Nebuchadnezzar. Je ne suis pas du tout certain de cela. Quand nous considérons Nebuchadnezzar, son orgueil, son esprit d'antéchrist, hein, qui s'est manifesté à quelques reprises, quand on considère qu'il a même fait jeter dans la fournaise ardente les serviteurs de Dieu en tant que tels, et qu'il a fait détruire le temple du Seigneur, en fait, il a détruit Jérusalem, il a fait mettre le feu au temple de Jérusalem, il a profané le temple de Jérusalem. Lorsque nous regardons son orgueil dans les derniers jours de son règne, nous voyons que l'homme est extrêmement pécheur et très corrompu. Vous savez, je reviens là-dessus parce que des gens, parfois, on s'imagine que s'il y a quelques changements dans notre société, quelques lois un peu plus justes, qu'on va échapper au jugement de Dieu. Et des gens vont penser aussi, « Ah, si je m'amende dans ma vie sur tel ou tel point, ça va faire l'affaire de Dieu. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu est toute forme de mal. Le jugement est venu sur Sédécias à l'époque de Sédécias au royaume de Juda. Sédécias n'était pas le roi le plus corrompu que Juda ait eu, mais le moment était venu. Dieu avait compté, pesé et divisé. Dieu ici a décidé souverainement, selon ce qu'il avait décrété, que c'était terminé. Belshazzar n'est pas nécessairement l'homme le plus corrompu, il l'était. Mais ça nous rappelle ceci. La colère de Dieu est sur tous les pécheurs. Et à moins d'une véritable repentance, elle va nous atteindre, et nous ne savons pas quand, mais l'Écriture nous dit « bientôt ». Tous, sans exception, vont entendre un jour cette sentence. Compter, compter, peser, diviser. Il ne suffit pas de s'amender de quelques comportements pour éviter le courroux divin. Il ne suffit pas de quelques réformes superficielles de la société pour que disparaisse de dessus d'elle le nuage du jugement. Il faut un changement beaucoup plus profond du cœur. Il faut la repentance et la conversion. L'accomplissement vers ce cinquième point, pour terminer plus rapidement, versets 29 et 30. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or. On publia qu'il y aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Le couperet est tombé. Et rapidement, le couperet est tombé. Belshazzar a fait fi de Dieu, n'a pas pris garde à son message, à sa voix, à sa parole. Maintenant, il doit faire face à celui qu'il a sciemment ignoré en étouffant la voix de sa conscience. Il a préféré la jouissance du péché à la justice. Il a préféré le mensonge à la vérité, les ténèbres à la lumière. Il a endurci son cœur pendant des années et doit en porter les conséquences. Le temps de la patience de Dieu a pris fin pour lui et pour son royaume. L'apôtre nous met en garde toujours dans son épître aux Romains au chapitre 2, verset 4, lorsqu'il nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, de sa très très longue patience, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ainsi en est-il de tout homme, de toute femme, sans exception possible, sans que nous en connaissions le temps déterminé. Ainsi en est-il pour tout homme et toute femme, le temps viendra, il faudra rendre des comptes. Mais il existe une porte de sortie. Il existe une voie de secours. Il existe une issue à une si tragique fin. C'est la repentance, comme je disais, et plus particulièrement la repentance et la foi en Jésus-Christ. Paul écrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19 et 20, je vous invite à y tourner. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 et 20. Donc, il est possible d'échapper au juste jugement de Dieu, qui peut tomber n'importe quand, sur les individus comme sur les sociétés. De Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Il a mis en nous, les apôtres et les prédicateurs de l'Évangile, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait pour nous, par nous. Nous vous en supplions au nom de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions lui justice de Dieu. Nous échappons au juste jugement de Dieu, à sa juste sentence, parce que quelqu'un d'autre l'a porté à notre place. Mais il faut pour cela venir à lui. Il faut se repentir de nos péchés. Il faut croire en lui. Il faut reconnaître notre état de pécheur, notre besoin. Il faut reconnaître la menace qui pèse sur nous. Il faut mettre fin à notre arrogance, à notre fausse assurance. Il faut cesser de s'appuyer sur nous-mêmes, sur nos capacités, mais aussi sur nos idoles. Dans sa deuxième épître, toujours aux Corinthiens, chapitre, un peu plus loin, chapitre 6, l'apôtre ajoute aussi au verset 1 et 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Si quelqu'un dans cette assemblée n'est jamais venu réellement à Christ, n'a jamais été vraiment été réconcilié. C'est le temps où jamais, avant que Dieu ne dise « comptez, comptez, pesez, divisez ». Et rappelons-nous, nous qui appartenons au Seigneur, l'importance de nous consacrer à lui, l'importance de nous détacher de ce monde, de nous rappeler que nous ne sommes pas de Babylone, mais du royaume de Dieu, et que Babylone aussi a été comptée, comptée, pesée, et divisée, qu'elle sera emportée par le jugement de Dieu, mais que ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église a apparu devant le monde, a dit à ceux qui l'écoutaient, qui demandaient qu'est-ce qu'il devait faire, étant touché par son message, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Non pas physiquement, mais spirituellement. « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Perverse. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons chanté au début de ce culte à quel point tu es un Dieu saint. Nous avons aussi chanté que tu es le Dieu rédempteur. Nous voulons nous laisser conscientiser un peu plus ce matin sur la réalité du jugement qui pèse sur ce monde et sur tous les individus, Seigneur, qui ne te connaissent point. En nous rappelant que cette ignorance est une ignorance coupable, qu'il y a une résistance naturelle dans le cœur des hommes. Ils refusent de venir à toi. Ils refusent la vérité. Ils refusent la lumière. Ils préfèrent les ténèbres. C'est dans ce monde que nous sommes appelés à marcher. Donne-nous, comme de Daniel, Seigneur, la grâce, tout en respectant ceux qui nous entourent, de proclamer la vérité. Mais certainement que nous voulons te bénir de ce que nous avons entendu, la parole de réconciliation, et de ce que tu as mis cette parole dans nos cœurs, et de ce qu'il est encore temps pour que certains puissent venir. Donne-nous plus de zèle, plus de fardeau, Seigneur, pour les âmes autour de nous. Donne à cette Église, Seigneur, de faire rayonner le beau message de l'Évangile dans toute sa plénitude et sa vérité, ne mettant d'aucune manière de côté la gravité du péché, à quel point il possède un caractère haineux devant ta face, ne mettant point de côté le fait de ta sentence, de ta juste sentence pour toute forme d'iniquité, le fait que ta colère est sur tout homme et toute femme qui ne connaissent pas ton Fils. Et de l'autre, Seigneur, d'avoir dans nos cœurs ce sens très, très profond de ton amour pour les pécheurs, sachant, notre Dieu, que tu as un plan parfait à cet égard, que ton Fils est venu donner sa vie pour un peuple. Seigneur, fais croître en nous ce zèle. D'un côté, la grande crainte de ton nom, et d'un autre, cette grande assurance de ton amour, notre Dieu, notre Père. Nous te prions que s'il y a parmi nous, encore une fois, quelques personnes qui ne sont jamais réellement venues à toi, lors même que ces personnes confessent être chrétiennes,
Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, qu'elles puissent faire face à la vérité, qu'elles puissent reconnaître leurs besoins. Notre Dieu, car il n'y a pas de honte à cela, bien au contraire. La honte, elle est pour ceux qui refusent d'obtempérer. La honte, elle est pour ceux qui s'obstinent, qui croient pouvoir se présenter devant toi avec quelques mérites personnels, qui croient pouvoir s'en sortir eux-mêmes. La honte, elle est pour ceux, notre Dieu, qui s'imaginent que dans la balance de ta justice, qu'ils ont fait ce qui était nécessaire pour pouvoir passer de l'autre côté. Alors qu'en réalité, notre Dieu, nous sommes tous perdus devant ta face. Ta justice est telle, notre Père, que dans ta balance, nous sommes toujours du mauvais côté. Mais nous voulons te bénir que ton Fils a pris notre place. Il accomplit ce qui était nécessaire à notre rachat, afin que désormais, Seigneur, nous puissions être du bon côté, afin que désormais nous soyons délivrés de notre culpabilité, afin que désormais tu nous vois à travers lui et que, Seigneur, tu nous acceptes dans ta présence. Sois glorifié, notre Dieu. Sois béni en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.